I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On va tout vous expliquer sur r/place. On va aussi vous montrer en quoi le DMA, le Digital Markets Act, va tout changer pour les GAFAM. Et tout le reste de l'actu tech, c'est tout de suite dans le rendez-vous tech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, on est en avril 2022, c'est l'épisode numéro 452. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de recevoir encore une fois les... Alors est-ce que je dis les deux tiers des Fabulous ou les nous à trois, on fait trois quarts?
La meilleure partie.
Une partie des Fabulous, on va dire ça comme ça. On a Jérôme Kainborg d'une part et d'autre part Cédric Deluca. Comment allez-vous messieurs? Vous êtes en forme?
Ah bah oui, toujours. Oui.
Très bien, Team Printemps.
Team Printemps, écoute, je peux pas te montrer, on n'est pas en live sur Twitch malheureusement parce que les enfants sont malades, donc tout est un peu compliqué, et donc je peux pas vous montrer comment ça se passe dehors, mais c'est une tempête de neige, je pensais qu'on en avait fini avec la neige, et ça me déprime, mais je vous jure, c'est comme au pire de l'hiver là. Donc, j'étais à Paris la semaine dernière, il y a eu trois flocons de neige qui sont tombés et tous les Parisiens disaient « Oh mon Dieu, mais il neige, mais quelle histoire !» Ça m'a bien fait rire. Là, tout de suite, je rigole beaucoup moins, je peux vous dire.
Sauf que là, ce n'était pas une ref à la météo et aux saisons. C'était une ref à...
Non.
Voilà. Pardon ?
Comprendre à...
D'accord, je n'ai pas compris.
Team printemps, team hiver, team automne, c'était hier soir, les dernières
batailles. Ah oui, alors oui, effectivement, c'est r/place 2.0, qui est un phénomène absolument incroyable, qui s'est terminé hier soir, tard. Vous êtes couchés tard, du coup, tous les deux ?
Oui.
Mmh. Ouais, une heure et demie.
Vous avez participé
ouais,
la à dernière l'effort garde, de guerre ouais. des pixels.
Exactement.
Eh bien, on va vous expliquer... Bien. On va vous expliquer tout ça dans un instant. Mais avant ça, évidemment, je voudrais remercier Plivox, Fricazoïde, Laurent L, Laurent Bélanger, Simon Pécauve, Christophe Pégano, Sébastien Mouret, Gilles Masse, qui nous ont rejoints dans la formidable famille des Patriotes. Il faudrait un F pour Patriotes pour faire une belle allitération. La formidable famille des Fratriotes. Voilà, ça fait fratrie aussi, ça peut marcher. J'ai failli dire autre chose. Et bien sûr, les producteurs Derek Herb et Léthargique Panda, merci à vous tous qui soutenez l'émission sur patreon.com/rdvtech. Vous faites avancer cette petite machine d'information et de bonne humeur, j'espère. Et c'est grâce à vous que l'émission existe, donc un grand, grand merci. Et justement, d'information, on a des choses à vous expliquer et des choses... plutôt sympathique et intéressante. Oui, on va dire d'abord sympathique et ensuite intéressante. Donc, on va se lancer dans les infos de la semaine. Les infos à retenir tout de suite avec d'abord r/place 2.0. C'était quand même un week-end assez fou qui s'est passé sur Internet. Je suis sûr que plusieurs auditeurs, un certain nombre d'auditeurs, on a entendu parler comme ça en passant, mais sans vraiment comprendre ce qu'est ce truc qui a complètement enflammé l'Internet français, en particulier sur Twitch. On va expliquer. Je vais commencer en expliquant de quoi il s'agit, comment ça fonctionne. Et puis après, on peut discuter de comment ça s'est passé de l'intérieur, puisque vous avez passé des week-ends à peu dormir, vous deux, pour participer, hein, si j'ai bien compris.
Alors, moi, j'étais surtout là à la fin de la bataille. Hein. Oui. Ce week-end, j'étais off.
T'es arrivé quand tout était déjà gagné?
Non, et... je suis arrivé quand on avait besoin de renforts hier soir, les grandes attaques.
C'est marrant parce qu'on utilise un vocabulaire un petit peu militaire et je suis sûr que ça fera grincer des dents certains. Ouais. Mais...
Bah, en même temps, ça s'appelait Pixel War et il y avait de l'espionnage, il y avait tout. C'était plus sportif que guerrier, on va dire.
C'est ça. Mais c'était très second degré, tout le monde en jouait un petit peu. C'était bonne ambiance, bon esprit. Mais de quoi s'agit-il pour ceux qui ne comprennent pas? Alors, sur Reddit, qui est bon, un site que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, peu importe, il y a un sous-site qui est en fait un petit peu une sorte d'expérience sociale, une expérience technico-sociale. En fait, c'est une immense page avec d'abord 1 million et puis 2 millions de pixels. Donc, je ne sais pas combien ça fait exactement, mais un certain nombre de pixels par un certain nombre de pixels. Un Canva qui fait 2 millions de pixels sur lequel tous les utilisateurs de Reddit qui sont enregistrés sur le site peuvent, toutes les 5 secondes, changer la couleur. Toutes les 5 minutes. Excusez-moi, oui. J'en ai placé quelques-uns, mais toutes les 5 minutes, chaque utilisateur peut changer la couleur d'un pixel. Et c'est n'importe qui est connecté au site, et il y a des millions d'utilisateurs qui sont connectés au site, peut-être pas des millions qui ont été engagés dans l'expérience ce mois-ci, c'est ce week-end, mais en tout cas, un grand nombre de personnes entraînées par des gens sur Twitch qui les encourageaient à faire différents motifs, différentes œuvres sur différentes parties du Canva, du tableau. Alors, on les appelle les tuiles, hein, les petits pixels que l'on peut placer. Et évidemment, une personne seule ne peut pas faire grand-chose parce que même s'il y a 2 millions de pixels, bah, très rapidement, quand on place le sien, au bout de quelques minutes, généralement, il a été remplacé par quelqu'un d'autre. Donc, on peut difficilement dessiner quelque chose. Entre parenthèses, pour que vous compreniez bien, on va sur le site et on peut zoomer. On voit d'abord l'image, entre guillemets, en entier, puis on peut zoomer dans l'intérieur de l'image pour aller jusqu'à un niveau de zoom dans lequel il est confortable de placer son pixel. Et donc, quand on est tout seul, bah oui, on ne peut pas faire grand-chose parce que quand on a placé un pixel, il y en a tellement qui participent que rapidement, le pixel va être modifié ou au moins ce qui est à côté va être modifié. Donc, on ne pourra pas faire quelque chose de vraiment complexe. Mais par contre, quand il y a toute une équipe qui se met ensemble, ils peuvent faire des choses qui ressemblent vraiment à quelque chose. Et ça peut être un petit peu éphémère, un petit peu comme des dessins dans du sable. Vous savez, c'est des choses qu'on va dessiner, et puis on va effacer une partie, puis remettre une autre partie, etc. Sauf qu'au lieu que ça soit une main qui contrôle le dessin dans le sable, eh ben, c'est des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui vont placer leurs pixels. Et ce qui s'est produit, alors il faut rappeler que le SlashPlace avait déjà existé en 2017, mais de manière beaucoup plus chaotique, parce que les gens ne savaient pas exactement comment l'utiliser. Et puis il y avait moins d'entraînement par des Twitchers. Mais ce qui s'est passé là, c'est que tout de suite, il y a des Twitchers célèbres, et notamment en France, je pense que c'est Kameto, qui était le chef d'orchestre principal du truc. Eh bien, ils se sont mis à, vraiment ça, devenir des chefs d'orchestre, des chefs de construction qui encourageaient les gens qui les regardaient avec des centaines, là encore, des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui regardaient en même temps, à dessiner des choses. Et ça s'est assez vite transformé en conflit entre, j'ai envie de dire, les pays, c'était un petit peu les pays, c'était aussi les langues. Et c'était donc des conflits pour occuper l'espace avec des gens qui se regroupaient dans des discords pour avoir une coordination plus grande qu'au niveau d'un seul stream Twitch, mais plusieurs Twitchers qui se regroupaient ensemble pour coordonner leurs efforts, des modes pour indiquer aux gens où cliquer pour faire le truc. C'était pas des bots, contrairement à ce qui s'est dit à un moment, mais pour indiquer aux gens où cliquer pour parfaire l'image qu'on essayait de dessiner, et puis des mouvements qui sont devenus, on le disait un petit peu dans un langage presque guerrier, mais là encore une fois c'était du jeu, c'était très bon enfant, entre les différents pays, certains qui essayaient de mettre leur drapeau et puis des offensives par l'arrière, etc. Donc c'est vraiment une expérience technique à la base, complètement quelque chose d'un test purement technologique. Et ça s'est transformé vraiment en une aventure narrative avec des conflits, des retournements de situation, des drames. Et puis, je vais peut-être vous laisser en parler un petit peu parce que vous le ferez certainement mieux que moi, vu que vous avez un petit peu plus participé. Moi, avec les enfants malades, c'était difficile. Mais Jérôme, toi, t'es arrivé un petit peu à la fin, et je sais que tu es un grand fan d'histoire. On a vraiment des organisations presque, je sais pas, géopolitiques qui se sont formées. C'était magique à voir et à suivre. Dis-nous un peu.
C'était assez fascinant, et les points qu'on peut noter, alors juste pour comprendre la situation, moi, c'est vrai que j'y étais pas ce week-end, parce que je m'étais mis en off, comme la plupart du temps le week-end. Mais j'ai rattrapé un petit peu, j'ai mené mon enquête parce qu'on traitait le sujet nous ce matin. Et ce qui s'est passé, pour comprendre un peu la situation, c'est qu'au début, c'est très libertaire, tout le monde pose ses pixels, les communautés, ça va, mais très rapidement, on est un petit peu obligé de dessiner sur les dessins des autres. Mmh. Et c'est là où les conflits peuvent démarrer. Et on va dire, pour faire simple, c'est quand Kameto, donc un streamer français, a pris une très large place en bas à gauche de l'ensemble du dessin pour faire un grand drapeau français, qui a commencé à avoir des tensions. Disons que il y avait aussi, c'était intéressant à voir, parce que l'édition de 2017, c'était très Reddit, et l'édition de 2022, cette année, c'était Reddit, mais ça a été la grosse arrivée des communautés Twitch, et donc des organisations encore plus redoutables, parce que en live... et des mobilisations de communautés assez importantes. Et ce qui s'est passé, c'est que...
Je vais juste corriger un tout petit truc, parce que je sais qu'on va nous le dire. Ouais. Au départ, il était au milieu, hein, Kameto, avec le drapeau français.
Oui, c'est pour ça que j'ai voulu simplifier.
Oui, c'est vrai, oui, d'accord, pardon.
Je voulais simplifier, disons que les grosses tensions territoriales ont commencé quand on a posé... Et c'était... À part le drapeau d'Allemagne, qui était tout en longueur, en croix, le drapeau français était le deuxième plus imposant drapeau de la carte. Et ça a un petit peu agacé les Espagnols et les Américains, qui ont voulu négocier. Il y a eu toute une négociation qu'on pouvait entendre en live. Ils se sont appelés, etc. Ils ont pris un petit peu de haut la communauté française, on va dire, qui, on connaît les Français, quand on les prend de haut, ça les... Donc, les Français, ont dit, vous voulez nos pixels, attaquez-nous, nous on défend. Voilà.
Et c'est ça.
Je résume vraiment très grossièrement, mais en gros, le reste du week-end, jusqu'à hier soir, 1h du matin, c'était les Français qui disaient, on ne lâchera pas un pouce. Et les Espagnols, un peu les Américains, qui ont essayé de faire des coalitions avec des fans de K-pop, etc., pour attaquer le drapeau français et tous les monuments français. Et nous, on reconstruisait à chaque fois pour... c'était une guerre d'endurance, en fait. C'était très rigolo, parce que les Français ont vraiment agi de manière très française, on va dire. Contrairement, par exemple, aux Allemands, qui sont les vrais vainqueurs, on va dire, de ce Pixel War, parce que c'est les Allemands qui ont mis le plus de pixels. Mais les Allemands étaient beaucoup plus conciliants. Ils laissaient les gens dessiner des choses sur leur drapeau. Alors que nous, les Français, c'est chez nous, vous rentrez pas, c'est nos dessins, vous y touchez pas.
Mais c'est marrant, c'est aller très loin. Je mettrai dans la newsletter quelques liens pour expliquer un petit peu tout ça. Si vous voulez y comprendre un petit peu plus, vous aurez avec des extraits vidéo, des extraits des différents états du canevas pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Donc, allez sur la newsletter, hein, c'est sur notepatrick.com, vous pouvez vous abonner, il y aura plusieurs liens pour ça. Mais l'un des problèmes était que les Français étaient tellement efficaces que beaucoup pensaient que c'était des bots. Oui. Et en fait, on l'a montré avec des choses comme l'event caritatif de Zerator, qui est un autre streamer qui s'appelle le Z Event. Et les Français, en fait, sont très très engagés sur Internet. Oui. Et Zerator a levé des millions, parfois plus de 10 millions d'euros dans les derniers pour des causes caritatives, ce qui sont des sommes qui sont parmi les plus grosses, si ce n'est les plus grosses, qui ont jamais été levées dans le monde pour des événements caritatifs par un événement sur Twitch. Et donc, il y a vraiment un engagement sur Internet et sur Twitch de la population française qui est très, très fort. Et donc, pour les autres qui voyaient ça, avec tellement de rapidité et de puissance, ils se disaient « mais c'est pas possible, c'est des bots ». Et il y a même eu des moments assez magiques où les Américains qu'on pouvait suivre sur Twitch étaient en train de dire entre eux sur leur Discord: Ah bah oui, mais c'est des bots, c'est pas possible. Et donc, les Français répondent à ça en inscrivant, en écrivant sur des parties qui étaient occupées par les Américains « human ». Donc, pour écrire, nous sommes humains, pour répondre directement, pour montrer, mais non, nous ne sommes pas des bots. Et donc, ils écrivent, ça se forme un petit peu comme... Enfin, c'est difficile à décrire, mais c'est presque comme la matrice, quoi. Il y a des trucs qui se forment. D'abord, c'est des petits points, puis on commence à discerner des lettres, on ne comprend pas bien. Et puis, on voit human et on entend les réactions des gens qui sont sur le Discord américain en live, qui disent « Ah non, mais ils sont en train de nous dire qu'ils sont humains, en fait ». Et puis, il y a des stratégies complètement folles, des gens qui disent
oui, «
Bon, ben, on défend notre territoire, mais si on a un petit peu, si on a un lieutenant qui peut aller par derrière et aller attaquer le territoire des gens qui nous attaquent, nous, eh ben, ça fera en sorte que leurs soldats, entre guillemets, vont devoir diviser leur attention, non pas juste sur le fait de nous prendre notre territoire, mais aussi de défendre le leur pour recolorier les pixels qui ont été coloriés. Enfin,
c'était fascinant. Il y a des vraies tactiques, moi qui joue à des jeux de stratégie, il y a des vraies tactiques qui ont été déployées, de la vraie intelligence au sens espionnage, c'est-à-dire que Étoile avait un traducteur catalan pour aller espionner les streamings espagnols pour comprendre ce qu'ils disaient, pour pouvoir anticiper les attaques espagnoles. Et l'organisation française, nous on dit souvent qu'on est des Gaulois désorganisés, il y avait, et c'est pour ça que je faisais référence à la Team Printemps, l'organisation française où on s'organisait par nos dates de naissance et nos saisons de naissance pour pouvoir répliquer, pas tous d'un coup, mais pouvoir faire un espèce de rouleau compresseur de pixels synchronisé pour décourager l'adversaire, c'est-à-dire que quand eux, ils switchaient la couleur des pixels, nous, on envoyait des salves de saison régulières pour recouvrir leurs pixels. C'était vraiment fascinant. C'est allé très, très loin, c'est-à-dire qu'il y avait des alliances secrètes aussi qui ont été menées. Et c'est allé, et ça, on va dire que... C'est les mauvais côtés du truc. Il y a un moment où c'est devenu un concours de... Vous voyez ce que je veux dire ? Où... dire que certains streamers espagnols... Voilà.
Ouais, mais ça, c'est quand XQC, il est rentré dans la danse avec les streamers espagnols. Il s'est allié. Et voilà. Et tu as entendu la conversation en live entre Canito, justement, et les Espagnols. Et il y avait XQC au milieu.
Ça a commencé à changer
Qui est un stream, il est canadien, si je ne me trompe pas, excusez-moi.
Oui, oui, oui.
Et qui est accessoirement.
Et en plus, il comprend le français. Hein.
C'est ça.
Il y a eu des échanges de noms d'oiseaux et un peu de mauvaise foi et attaquer les carrières des uns et des autres, pour la faire simple. Et en plus, avec quand même une action espagnole qu'on retiendra, c'est qu'ils nous ont accusés d'avoir des bots. Donc, eux, ils ont acheté un bot.
Voilà.
Pour répliquer, voilà. Donc, c'est la surenchère de la guerre. Hein.
Ben oui, mais oui.
On a toujours l'impression que c'est...
Mais je crois que les bots sur R/Place, la Convention de Genève, n'acceptent pas ça, en fait. C'est un crime de guerre, là, pour le coup.
Ah ben oui.
Je pense qu'ils vont être bannés de Reddit à vie. Hein.
Pour défendre juste un truc, parce que il pouvait y avoir une ambiguïté, parce qu'effectivement, les réactions françaises étaient étonnamment bien synchronisées. Et c'était troublant, comme tu le disais, Patrick. Et n'oublions pas que dans le week-end, il y avait un onglet ouvert chez Cametto qui pouvait prêter ambiguïté parce qu'on s'est servi de quelque chose qui permet de faire des bots, mais pour faire ce fameux calque, pour que tout le monde sache où mettre son pixel.
Quel pixel donc, on fait, mais en fait, il fallait le faire.
Mais c'était pas un bot, mais c'était une aide, c'est clair.
Ouais.
Mais pas interdite par la Convention de Genève.
C'est allé très loin. Je vais revenir vers toi, Cédric, parce que tu l'as vécu aussi. Et puis, j'imagine qu'avec l'école dans laquelle tu officies, c'était la fête. Mais c'est allé très loin parce qu'on a même vu un candidat à l'élection présidentielle vanter la place de la France sur R/Place avec cet immense drapeau français. Au final, effectivement, il est énorme. Juste pour expliquer, au final, on a un grand drapeau français en bas à gauche du canevas. Avec en bas l'arc de triomphe, un croissant et en ombre la tête de Zidane qui est sur le haut du drapeau. Et au final, ça a été comme ça.
Oui, il y avait même plus que ça. Il y avait Jinx aussi avec le logo Cametto. Il y avait les Daft Punk croisé avec PNL, il y avait le joueur du grenier, il y avait Lofi Girl, enfin il y avait plein de trucs sur le, il y avait deux Dofus aussi, enfin voilà.
Et je vais juste le mentionner comme ça parce que c'est comique, mais le candidat en question est plutôt de l'extrême droite et c'est marrant parce que le général en chef c'est Kameto qui de son vrai nom s'appelle Camille Kébir, qui est franco-algérien, qui est né en France et du coup bon c'est marrant parce qu'il a vanté le truc. Je pense qu'il aurait fait une tête un petit peu bizarre s'il avait vu qui était à l'origine de, ce mouvement pour la gloire française.
Ils se sont vite fait remettre à leur place quand même. C'est vrai que dès qu'on affiche un drapeau, on a l'impression en ce moment que le drapeau français n'appartient qu'aux nationalistes. Non.
C'était une très belle preuve du contraire, justement. Ouais. Mais du coup, Cédric, tu as, toi, vécu ça peut-être un petit peu tout le week-end aussi. Tu travailles à Epitech. Voilà, je vais y arriver. Ouais. À l'Epitech. Donc, j'imagine que là, ils ont fait chauffer tous les serveurs de l'école.
Évidemment. Là, il y avait toutes les villes. Il y avait un Discord Epitech dédié à ça, où tous les BDE et les étudiants étaient dessus. Donc, on a fait apparaître un logo Epitech qui est resté jusqu'à la fin, d'ailleurs. Il y est toujours.
Pas mal.
Il est toujours maintenant. C'est maintenant tout le truc est destroy, mais il est resté jusqu'à la fin. Il s'était coordonné et tout ça. Alors, c'est un petit logo, hein. C'est pas grand comme le drapeau français, mais évidemment, il participait et à l'effort de guerre aussi sur comment ça s'appelle, sur le drapeau français, enfin le French Corner en bas à gauche. Et c'était impressionnant. Tout le monde parlait que de ça. Ça a été un vrai phénomène. Je vais vous dire un truc. Il y avait des vraies sensations de Coupe du Monde de foot, hein. Mais vraiment.
Oui, mais vraiment.
L'ambiance générale sur les gens qui hurlaient, en stream, c'était, à chaque fois la tête de Zidane apparaissait, on avait gagné, c'était France 98, quoi. Les gens allaient sur les ronds-points et klaxonnaient, tu vois, on était presque là. Il y avait vraiment cette ambiance-là.
Par rapport à ça, il y a plein de gens qui vont se souvenir toute leur vie de ce truc qu'ils ont vécu. Là, on est complètement dans ce registre.
Tu vois, on a Meta qui essaie de faire des métaverses privées et tout. Je pense que là, on a une vraie expérience de métaverse, quelque part.
Ouais, c'est
un... communautaire et mondial. Un mandala, puisque c'est ça, les dessins dans le sable temporaire. Un mandala, il y avait beaucoup de choses fascinantes. Alors, un gros reproche...
Mais attends, on va laisser Cédric finir avant, de se...
Ouais.
Non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, les gars. En fait, vraiment, quand je dis il y avait cette sensation de Coupe du Monde, c'est que on sentait qu'il y avait une communion mondiale autour d'un événement. Enfin, je veux dire, c'est digne. Je vais me faire taper dessus si je dis ça, mais c'est digne des JO ou d'une Coupe du Monde d'un sport. Ou franchement, on en était à ce niveau d'implication parce que c'était des millions de gens qui étaient sur cette page-là. C'est des millions de gens qui ont participé. Rien que l'alliance XQC et les deux Espagnols, il y avait quasiment 700 000 personnes, en fait, qui regardaient ces lives-là.
Le dernier décompte, c'est côté français, on n'était pas loin de 600 000, entre 500 000 et 600 000 actifs le dernier soir. Les Espagnols et les Américains, un petit peu moins, quand même.
Mais en tout cas, il y avait un énorme taux d'engagement, sans compter les autres pays. Hein. Là, on parle vraiment que de la France, des États-Unis, encore XQC, c'est plus au Canada, mais bon. Mais il y avait vraiment cette entre guillemets bataille gentillette, c'est-à-dire qu'à la fin il y a pas de mort.
Ça a dérapé un petit peu verbalement, mais au final je pense que c'était quoi. C'était bon enfant.
Écoutez, c'est comme le coup de boule de Zidane sur Materazzi. à un moment ça peut déraper si on insulte les mamans. Mais quand je vous dis que c'était très proche des sensations du sport, dans le sport finalement, mais c'était vraiment là. Et avec une grosse différence, c'est que tout le monde était impliqué. C'était pas que du clapping ou des gens qui gueulent dans un stade. On était vraiment actifs. C'est-à-dire que tout le monde pouvait participer à ce sport. C'est extrêmement inclusif. Et du coup, c'était facile d'avoir envie de représenter la France et de participer à un truc, etc. Honnêtement, ça a transcendé ça a transcendé plein de choses. C'est-à-dire que des communautés qui s'appréciaient peut-être pas forcément, qui finalement se sont retrouvées toutes derrière le drapeau français à pousser le truc, etc.
Kameto président.
Et c'était hyper intéressant. Et je pense qu'en fait, même, tu vois, c'est évidemment, il a l'origine du truc, mais même, je pense que ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire que là, en fait, j'allais dire je suis Kameto, mais tout le monde est Kameto. Tous ceux qui ont participé, en fait, mériteraient une médaille. Mais c'était génial, parce que dans les faits, bon, ok, ça change pas la face du monde. Il nous reste 3 ans pour inverser la tendance avec le dernier rapport du GIEC. C'est toujours la guerre en Russie et en Ukraine. Mais ça a été un moment de grâce où, en gros, on a quitté notre quotidien et on s'est unis autour d'une cause qui, certes, est très futile, mais qui a redonné un peu d'espoir dans le fait que, ok, on est capable de se mobiliser. Alors là, ok, la cause, elle n'est pas incroyable, mais on est capable de se mobiliser pour un événement d'importance mondiale. Et c'était hyper intéressant. En fait, cette expérience sociologique, elle est extrêmement intéressante. Trop dommage d'ailleurs qu'il ait fallu 5 ans, attendre 5 ans pour avoir la deuxième version. Peut-être que ça reviendra plus souvent vu le succès que
possible,
ça a
connu. Possible, ouais. Mais c'est pas, en même temps, ça va pas être aussi événementiel si c'est tous les ans, tu vois. Encore que peut-être tous les ans.
Non, mais tu vois, mais genre, tu fais ça tous les. Tu fais comme la Coupe du Monde tous les 4 ans, et, ouais. Et voilà.
Ah non, mais il y a.
J'étais là. Mais il y a un vrai truc. Enfin, c'est incroyable. Ce qui s'est passé était incroyable.
Ce qui était assez fascinant, justement, c'était ce côté, tu sais, on dit souvent, on est des grains de sable. Bah, justement, là, on avait vraiment, vraiment le côté, je ne suis qu'un pixel au milieu de l'univers, je ne sers à rien. Mais quand on agit collectivement, il y avait quelque chose vraiment de tangible. Paradoxalement, qui se passait pas de manière tangible, mais je pense qu'un certain nombre... Et c'est pour ça que, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si maladroitement... rapidement des politiques ont cherché à s'en emparer, c'est que je pense que la génération même, qui pour moi génération même c'est très inclusif, hein, y a plein de générations dans la génération même, avec son côté un peu absurde sur internet montre qu'elle est capable de se mobiliser pour des choses, et on l'a vu avec le Z Event, on l'a vu avec plein de choses, et ça c'est fascinant. Je pense que ça a été une vraie prise de conscience, et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce qui s'est passé. C'est un moment même assez historique d'internet. De prouver la force du collectif avec toutes les tendances d'Internet. C'est-à-dire, c'était très marrant de voir des alliances entre des pays et des fans de K-pop et des fans de One Piece.
Oui, parce que les alliances... Parfois, les alliances dont tu parles, effectivement, il y avait des gens qui disaient « Bon, alors attends, ceux-là, il ne faut pas les emmerder, donc on va leur dire « Ok, on vous file un petit peu de notre territoire, mais du coup, comme ça, vous ne nous attaquez pas et vous allez plutôt du côté des autres. » Enfin, il y avait vraiment des alliances stratégiques. Au final, le canevas, le drapeau français avec Thomas Pesquet, ce n'est pas Zidane, au final, qui est resté. C'est Thomas Pesquet, un petit peu au-dessus de l'Arc de Triomphe. C'est bien lui, hein, je ne dis pas de bêtises. Je ne vois pas
bien. Oui, c'est lui.
C'est lui. C'est la plus grosse structure. Elle représente, je ne sais pas, peut-être 3 à 5 % du canevas. La plus grosse structure qui soit restée. Et à côté de ça, il y a des choses qui font peut-être, je ne sais pas, un tiers, un quart du drapeau qui sont les structures un petit peu plus grosses. Il y a, enfin, du canevas. Alors, il y a un grand drapeau allemand, comme tu le disais, qui fait une grande croix sur à peu près le milieu du truc. Il y a un drapeau américain qui est relativement petit, hein, c'est pas tellement énorme. Il y a 2 ou 3 drapeaux argentins, il y a un drapeau turc, un drapeau anglais, quelques drapeaux italiens, mais la structure, le drapeau français est vraiment le truc qu'on remarque le plus et qu'on voit le plus au final. Et après, on peut zoomer dans les détails. Bon, maintenant, on peut plus le voir, mais on peut zoomer dans les détails. Il y a énormément de choses, quoi.
À noter quand même, parce que c'est intéressant, même s'il y en a eu à travers le week-end, mais on a terminé avec quasiment 0 drapeau européen.
Ouais. Bon.
Intéressant.
C'est vrai, il y en a eu un moment quand un drapeau français s'est mis sur le drapeau allemand et en fait, il s'est transformé ensuite en drapeau européen. C'était d'ailleurs assez cool. Après, il y a eu un cœur franco-allemand qui est apparu. Enfin, franchement, il s'est passé des trucs qui étaient vraiment hyper intéressants. Il y a plein de timelapses qui commencent à sortir de tout ce qui s'est fait. Et c'est extrêmement intéressant à regarder parce que on voit qu'en fait, il y a des communautés qui ont fusionné. C'est assez génial. C'est vraiment un événement d'ouverture. Même si on est tous adversaires, in fine, on s'aime tous bien et on joue au même jeu, quoi. On n'a juste pas le même maillot. C'est vraiment ça, en fait. Je compare vraiment un événement sportif parce que c'était très proche de ça en termes d'ambiance. Ouais.
Ce qui était intéressant aussi, c'est que, bien évidemment, le truc étant extrêmement libre, il y a eu des débordements, des choses qu'on ne doit pas dessiner qui se sont dessinées. Les modérateurs étaient quand même là. Voilà. Ils en ont effacé quelques-uns. Donc, on se dit forcément, quand on n'a pas participé à ce genre de truc, que la dérive va forcément être négative. Bah, pas tant que ça, en fait.
C'était rare.
C'est très intéressant. C'est un peu comme Wikipédia, quand tu mets vraiment un grand nombre de gens. Bon, on va dire des pays riches qui ont des ordinateurs, accès à Internet, etc. Il y a plutôt globalement un pourcentage du positif qui est sorti, bah même oui, si ça s'est terminé un petit peu dans une bataille des nations. Globalement, ouais, l'ambiance mais était bonne. Mais c'était
une rivalité. Les trois gamins grand... disparaissaient voilà. instantanément.
Ouais, ouais,
voilà.
Il y a un grand drapeau trans.
Instantanément, en fait.
Il y a un grand drapeau trans. Il y a enfin, vraiment
un grand drapeau de l'Ukraine qui n'a pas été ouais. touché. Voilà.
Ouais. Et, bon. Non, vas-y, vas-y.
Ça me fait plaisir parce que ça montre quand même que la majorité des gens qui, en tout cas, ont participé, même si on dit toujours d'Internet que c'est un endroit très négatif quand vous écoutez nos hommes politiques, de manière générale, Internet, c'est le Far West. On peut dire n'importe quoi, etc. On parlera sans doute après avec Elon Musk et Twitter, mais en gros, la censure, machin. Bon, bref, on a l'impression qu'Internet, c'est un endroit où il fait pas bon vivre. Quand on voit ça, en fait, on se dit qu'au contraire, ben la majorité des gens sur Internet, même s'il y a des trolls, même si au milieu, voilà, on est capable aussi, ben, dans ces moments-là, de faire des choses positives. Et ça fait partie des choses positives d'Internet.
Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. C'est presque une revanche de la majorité silencieuse d'Internet.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un moment de communion. C'est, voilà. Ouais.
Celle qui poste pas des tweets de tonton bourré raciste de partout. On a l'impression, surtout en cette période de guerre, que Internet, c'est que de la négativité qui nous tombe sur le coin de la gueule. Et ça, c'était très bien. Et beaucoup, je comprends la critique de dire c'est très futile de faire ça alors qu'il y a une vraie guerre à côté. Mais je pense que c'est pas un hasard s'il y a eu autant de succès. Je pense que les deux sont même assez liés. C'est intéressant. C'est très intéressant. On verra les répercussions. Peut-être qu'on est en train de dire n'importe quoi. Non,
à mon avis, ça reste conscrit à ça. Hein. C'est intéressant à noter parce que souvent on dit sur Twitch. Et à vrai dire, beaucoup de gens qui ont participé à cet événement sur Twitch sont souvent des gens qui sont un petit peu toxiques, machin. Donc il ne faut pas se voiler la face sur ça non plus. Oui. Hein. Mais c'était, oui, comme tu le disais, Cédric, un peu un moment de grâce un peu différent où tout à coup on était tous unis dans un truc, oui, un peu futile, mais qui montrait une certaine une voie, comment dire, bah oui, unifiée. Et, je sais pas, c'est pareil, encore une fois, Cédric le dit bien. Un match de foot, bah, ça ne va pas changer la guerre en Ukraine, mais c'est quand même un moment où on peut se sentir unis ensemble, etc. Et c'était dans ce même registre, quoi. Mm. Bon, parlons un petit peu d'Europe encore. Pardon, Cédric, tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, je disais moment de fraternité, c'était vraiment ça. Ouais. C'était cool.
L'Union européenne a donné un accord provisoire sur le DMA. C'est quoi le DMA ? Le DMA, c'est le Digital Markets Act, qui est le pendant du DSA, Digital Services Act. Et je vais vous la faire courte, hein. On ne va pas partir dans tous les détails du truc, mais le DMA, c'est un ensemble de lois et de contraintes qui s'appliquent aux plus grands acteurs de la tech, ou qui vont s'appliquer aux plus grands acteurs de la tech. En gros, ça vise vraiment les GAFAM, hein, voilà, c'est une question de tant de milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, tant de millions d'utilisateurs actifs en Europe par mois. En gros, ça vise les GAFAM. Et ça les contraint à un certain nombre de choses dont on parlait dans d'autres contextes dans l'émission depuis des mois et qui, là, tout à coup, viennent complètement chambouler leur manière de faire du business. Avant de vous en donner les détails, la loi est en cours de validation, de vote, etc. En gros, le temps qu'elle soit implémentée dans les législations locales, elle devrait entrer en vigueur vers le mois d'octobre, à peu près. Et si j'ai bien compris, c'est une loi qui est maintenant, pas actée parce qu'elle n'a pas encore été validée de partout et votée de partout, mais vu cet accord entre la Commission et le Parlement, bah, c'est un petit peu sur des roues, et donc ça va arriver. Est-ce que les GAFAM auront le temps d'ici octobre d'implémenter ces changements ? C'est beaucoup moins sûr, mais elles devraient entrer en vigueur à ce moment. Voir comment ils vont s'arranger avec les géants de la tech pour que ça soit légal, entre guillemets, qu'il ne soit pas encore implémenté. Parce que, et j'en viens à la nature des changements, il y en a deux que je retiens, mais il y en a beaucoup plus. Deux qui sont, d'une part, l'interopérabilité des gros services de messagerie si les petits le demandent, en gros WhatsApp, Facebook Messenger, iMessage, devront fournir des moyens pour des plus petits services de messagerie d'utiliser leur infrastructure. En gros, il faudra qu'un petit service de messagerie puisse envoyer des messages au service iMessage. Donc, cette histoire de bulle bleue, bulle verte, on ne sait pas comment ils vont le gérer, mais ça devrait, quand, si c'est implémenté, je n'arrive pas à y croire parce que c'est tellement énorme que j'ai du mal à me dire ça va effectivement se mettre en place. Donc, je vais garder le conditionnel. Mais donc, ça voudra dire que vous pourrez utiliser, par exemple, sur Android ou sur Windows, un programme qui va vous permettre d'envoyer un iMessage à un correspondant qui a un appareil iPhone, et à vrai dire même qui n'a pas d'appareil iPhone, puisque ça devrait être compatible. Pareil avec Facebook Messenger, WhatsApp, etc. etc. Donc, ça, c'est l'interopérabilité des services de messagerie. Et l'autre chose que je retiens, c'est la possibilité, là encore, on en parlait depuis un moment, la possibilité d'installer des applications et même des stores d'applications, en plus des paiements, bien sûr, sur iOS ou Android, sans passer par les App Store ou les Play Store. Alors, sur Android, c'est déjà faisable, dans une certaine mesure, mais sur iOS, c'est extrêmement perturbateur pour l'OS, et c'est un truc dont on parle, si vous suivez l'émission depuis un moment. Et bien là, ça serait imposé par l'UE. On devrait pouvoir installer une application sur le téléphone sans passer par l'App Store, avec tout ce que ça implique derrière. Encore une fois, si vous écoutez l'émission depuis un moment, vous savez que ce n'est pas du tout anodin. C'est vraiment un tremblement de terre. Ça, à vrai dire, ça aurait dû être le premier sujet de l'émission parce que c'est le plus important avec des conséquences sur le plus long terme. Mais je reviens vers Jérôme. C'est un tremblement de terre, ça. C'est monumental, ce Digital Markets Act.
Ah bah oui, si ça rentre vraiment en service tel que c'est conçu, c'est un changement complet du marché, avec des conséquences d'ailleurs bénéfiques, mais peut-être négatives aussi. On peut parler des problèmes de sécurité aussi qui n'ont pas forcément été abordés. Je pense que on l'a déjà vu, hein, Apple commence déjà à lever le bouclier en disant « Ouh là 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 !» on va pas pouvoir suivre parce que sinon ça va détériorer la fameuse expérience utilisateur sacro-sainte chez Apple. Moi, la vraie question que ça me pose, et on va dire qu'il m'inquiète un petit peu.
Jérôme, ouais. Les moyens de contrainte qui sont inclus dans cette loi sont importants, puisque jusqu'à maintenant, on parlait en numéraire, en chiffres genre tant de millions, tant de machins, ce qui est un mardi à 2h du matin quand ça tourne pas trop, la machine a imprimé des billets chez Apple. Là, on parle de 10%
des pourcentages de chiffre d'affaires. Quoi.
C'est ça, des pourcentages de chiffre d'affaires annuel de la boîte, 10% à la première infraction. Et si il y a récidive, ça peut aller jusqu'à 20%. Et annuel global. Donc,
c'est tellement énorme que Apple ne fait rien et se prend que des amendes. On n'a plus d'impôts à payer en Europe. Hein. Vit sur le dos d'Apple. Hein,
c'est ça.
Non, mais moi, après, la vraie question que je me pose, parce que on revient toujours à ça, on est quand même dans un Internet qui est mondialisé. Est-ce que du coup, ça va créer un Internet européen avec, on va dire, les grands fabricants, enfin les grands constructeurs qui vont devoir changer leur fonctionnement et du coup peut-être nous donner un service moindre pour garder pour les États-Unis et les autres pays qui n'ont pas ce type de loi des services complets. Tu vois ce que je veux
dire ?
Alors
moindre, je sais pas.
Je vais à l'extrême, mais
tu dis moindre.
Non, mais je donne un exemple.
Différent.
Apple, ça se passera jamais, mais Apple dit bah écoutez, nous voulons que Message soit conforme avec d'autres messageries. On arrête Message pour l'Europe. Démerdez-vous.
Alors c'est un petit peu le coup de poker que fait l'Europe. Moi, ce que je pense, c'est que Apple a intérêt à garder le service et extraire de l'argent de l'Europe. Tu vois, c'est un trop gros marché. C'est un petit peu ce que se dit l'Union européenne. Je pense, c'est que le marché est trop important pour que ces géants se disent, on va juste partir. Et donc, c'est l'inconnu, hein, c'est la plongée vers l'inconnu. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais ce que la contrainte est posée, pour que, ils soient obligés d'adapter fortement leur système d'exploitation et leur manière de faire les choses et leur manière de leur modèle économique, hein, d'une certaine manière, pour le marché européen. Et donc, c'est presque une démonstration de force qui est... Alors, on pourra discuter du fait que c'est nécessaire ou pas. Moi, je pense que à force de discuter et de dire « oui, il faudrait que bah », là, l'Union européenne dit, tape du poing sur la table et dit bah, « maintenant, c'est comme ça qu'on va faire. Si vous voulez vendre vos appareils chez nous, vous faites comme ça. » Et c'est intéressant, surtout en cette période d'élection en France, parce que c'est un truc qu'un seul pays ne pourrait pas faire. On le voit d'ailleurs avec...
La France a essayé, toute seule.
Oui, dans une certaine mesure. Mais oui et non. Hein. Tu sais, la France a poussé justement cette nouvelle réglementation qui fait qu'on ne peut pas avoir des impôts sur les sociétés moins que... C'est 15%, je crois, au niveau mondial, au niveau global aujourd'hui. Enfin, des pays qui font partie du... Bref. Mais... En Hollande, par exemple, les amendes sont suffisamment faibles pour que Apple ait mis le temps maximum, c'est-à-dire 10 semaines, 50 millions ils ont payé avant de consentir à adapter plus ou moins leur truc. Mais là, c'est vraiment taper du poing sur la table. Et oui, les sociétés en question pourraient dire « bon, bah, dans ce cas-là, on se barre », mais elles n'y ont pas intérêt. Je pense qu'il est très clair que, vu l'importance du marché européen qui représente des clients, comment se dire, un public qui est riche, ils ont intérêt à continuer à faire du business en Europe. Il y a pas de... Cédric, ouais. Tu penses que c'est ce qu'on entend en particulier aux États-Unis, ils aiment bien ce discours, c'est ah oui, mais les politiciens ils comprennent pas et donc ils prennent des décisions et c'est pas adapté machin. Sur la question de la sécurité, sur les messages, la compatibilité des messages, c'est intéressant d'ailleurs parce que ils précisent dans le texte de la loi, ils disent il faut que ça soit compatible dans la mesure où il est possible de le faire en respectant la sécurité. Et donc, ils ont intégré, alors ils ne donnent pas les solutions techniques, mais il y en a, mais ils ont intégré l'idée qu'il faut que ça respecte la sécurité du service. Donc, ils ne sont pas complètement aveugles sur ce point, mais est-ce que tu penses que c'est une bonne manière de faire les choses pour la puissance politique ou est-ce qu'ils sont, ils se perdent dans une démonstration de puissance ? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ?
Le sujet est extrêmement complexe. D'ailleurs, ce que tu disais, tu sais, sur les Pays-Bas, avec l'ACM, donc l'autorité de régulation là-bas, en fait, ils payaient toutes les semaines 5 millions, mais il y avait une limite de 50 millions d'euros. Ce qui veut dire fait, ils ont atteint la limite, et donc, du coup, réellement, s'ils veulent, ils peuvent même pas de faire d'efforts. Mmh. Ils sont arrivés au bout du système, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'argent, et la loi a prévu une limite haute. En gros, ils se sont dit, bon, c'est pas grave, on vient à crédit, on va verser 50 millions d'euros en 10 semaines. C'est pas très grave.
Ça en même temps, on peut imaginer que si c'était le cas, ils iraient un petit peu plus loin, quoi. Mais bon.
Ouais, là dans les faits, les Pays-Bas ont gagné 50 millions d'euros, tant mieux. Apple, pour le moment, pourrait ne faire aucun effort faire d'adaptation.
Ils ont implémenté ce qui avait été demandé, c'est-à-dire un moyen de paiement tiers pour les applications dating aux Pays-Bas spécifiquement, et ils ont implémenté le moyen de paiement tiers avec toujours leur commission de 27% au lieu de 30%, donc dans la ligne de ce qu'ils avaient fait ailleurs, ce qui est un moyen de contourner... Enfin, non, même pas vraiment, mais c'est un petit peu un moyen
d'appliquer le truc, mais à minima, quoi.
Voilà. Là, on n'est pas du tout dans le même type de... Je veux dire, j'ai du mal à imaginer comment Apple et les autres, on parle d'Apple parce qu'ils seront très touchés avec iOS, j'ai du mal à imaginer...
surtout, c'est les seuls à réagir.
Comment ils pourraient contourner le truc ? Parce que le texte est clair. Vous ouvrez des API pour iMessage, vous laissez les gens installer des apps sur votre OS... alors oui, il pourrait compliquer la chose en disant faut appuyer 4 fois sur le bouton, vous êtes sûr que vous voulez le faire, c'est très dangereux, attention.
Oui, ça va être
mais l'implémentation,
la question qui se pose, c'est, en fait, j'ai pas lu le texte entier, mais il me semble que dans la demande du régulateur, en fait, l'objectif, c'est pas que ce soit nativement disponible, c'est-à-dire que si l'utilisateur le souhaite, il faut qu'il puisse aller dans des options, etc., activer cette fonctionnalité. Ça signifie, en gros, aller faire 50 clics dans un menu, etc. Ou pourquoi pas charger un firmware spécifique UE compliant pour bénéficier justement de cette possibilité de sideloader des applis, etc. Donc, c'est ce sur quoi le texte n'est pas très clair sur les moyens mis en œuvre. Il faut qu'à la fin, l'utilisateur puisse le faire. Il n'y a pas écrit, il faut qu'il le fasse à la sortie de la boîte ou de telle ou telle manière.
Ouais, les moyens mis en œuvre, c'est toujours un peu compliqué parce que là, on tombe justement... Pour moi, c'est un texte qui est relativement mesuré, qui dessine les grands objectifs, mais qui ne va pas dire exactement spécifiquement comment il faut le faire parce que, d'une part, ce n'est pas le rôle des politiques et puis c'est le genre de choses qui non seulement peut se planter parce qu'il faut une expertise qui est importante, puis d'autre part, qui peut être dépassée au bout de six mois, un an, deux ans...
Si on donne la possibilité aux gens, je serais très curieux de savoir combien de gens activeraient cette possibilité de sideloader des apps, sachant que ils perdent en termes de niveau de sécurité, puisque potentiellement, en sideloadant une app, ou même en sideloadant une app, elle pourrait, pourquoi pas, ouvrir quelque chose et autoriser l'installation d'une app dans le dos de l'utilisateur, etc. Donc, sachant ce risque-là, combien de gens seraient prêts à sideloader des apps, charger des apps sur leur téléphone? Combien de gens activeraient cette fonctionnalité sur iOS?
C'est certain que ça serait pas tout le monde.
Bien sûr que non.
Pour que les gens comprennent bien, ce dont on parle, c'est le fait de pouvoir installer des applications qui ne sont pas vérifiées par Apple et donc incluses dans l'App Store. C'est-à-dire que n'importe qui peut développer une application iOS. Il la met sur son site web ou un store alternatif, tout à fait. D'ailleurs, si ça passe, il y a fort à parier que Amazon et d'autres développeront des stores pour installer des apps par eux, voire même, on se souvient de Cydia, des app stores de trucs piratés, ça peut arriver aussi. Mais donc, c'est des applications qui ne sont pas du tout vérifiées par Apple. Donc, n'importe qui crée un site web et dit « Téléchargez mon app iOS », exactement comme vous le faites sous Windows ou macOS. « Téléchargez mon app iOS sur votre téléphone et vous pouvez l'installer sans aucune vérification. » C'est pour le meilleur et comme pour le pire. Moi, j'ai longtemps, et vous en souviendrez si vous écoutez l'émission depuis un moment, je me suis longtemps dit « Ah oui, mais c'est justement toute la force d'iOS et d'Apple d'avoir ce contrôle sévère sur la manière dont on utilise le téléphone. Et si on veut un appareil qui soit plus libre, eh ben on peut aller du côté d'Android et donc cette alternative existe sur le marché. Et donc j'étais très frileux à l'idée d'imposer à Apple ce genre de choses. Mais je me dis aujourd'hui, si effectivement il y a un problème de monopole et comme on le dit parfois sur la question des revenus pour les apps, il y a peut-être effectivement un problème de monopole pour la question des revenus pour les développeurs. L'essentiel vient de l'OS d'Apple, même s'ils sont moins nombreux en termes de base installée, on va dire. Et peut-être qu'il faut faire quelque chose. Alors ensuite, on pourra dire oui, mais justement, ça marche très bien sur Apple et sur iOS parce qu'ils sont tellement sévères que les gens ont confiance et donc sont plus prompts à dépenser de l'argent et acheter des trucs, etc. C'est possible, mais peut-être que c'est un risque, si tu veux, si on a les bons avertissements, etc. C'est peut-être un risque qu'il vaut la peine de prendre pour... alors, c'est de ce truc en particulier dont on parle, mais pareil avec les messageries qui sont sclérosées, qui sont très... très, comment dire, enfermé.
Pas interopérable. Hein.
Voilà, pas interopérable, contrairement à un truc comme l'email, par exemple. Mais d'un autre côté, l'email, on a des problèmes comme le spam. Enfin, c'est vraiment une question d'équilibre. Et je me demande si là, on n'est pas à un moment où on se dit « Ok, il y a des bénéfices là pour tout ça. Peut-être qu'il faut aller de l'autre côté un tout petit peu, remettre un petit peu d'équilibre de l'autre côté et voir ce que ça donne. » Parce que c'est vrai
La vraie question... J'étais un truc, la vraie question, elle est sur la motivation de sortir ce texte de loi. Il est motivé par quoi? Des consommateurs qui se sont alliés, qui ont dit non, il faut faire plier Apple parce que moi, je veux installer ce que je veux comme app. Ou est-ce que c'est Spotify et les autres qui disent, attendez, non, le marché est tordu parce que quand les gens s'abonnent dans l'app... parce qu'en fait, il ne faut pas se leurrer, ces enquêtes-là cette loi-là, elle débarque juste parce que ce sont des gros industriels qui se tapent dessus. Spotify, c'est un gros industriel de la musique et qui, quand il voit Apple proposer un service à 9,99 directement sur sa plateforme, alors que lui, quand il y passe, y a une commission à payer, du coup l'abonnement est plus cher, et il est obligé de pousser les gens à s'abonner en dehors. Ok, ça c'est tout à fait légitime, mais de là aller jusqu'au sideloading, de là aller jusqu'à... Enfin, ça remet absolument tout en cause jusqu'à la messagerie Et la vraie question est, est-ce que vraiment tous les consommateurs ont demandé ça? Alors, je suis sûr qu'une partie le demande.
Moi, je crois qu'il y a...
En fait, c'est motivé par quoi? Quel est l'intérêt financier derrière? Tu vois, enfin, j'ai du mal à comprendre, moi, la motivation du truc.
Je crois qu'il y a une vraie préoccupation.
Et c'est valable aussi pour Google et le reste, hein.
Moi, je crois qu'il y a une vraie préoccupation. Bien sûr, on parle beaucoup d'Apple parce que c'est peut-être ceux qui sont le plus emblématiques de la chose, parce qu'ils sont dans toutes les catégories, en
oui,
fait, dans la messagerie,
ça, on a entendu tout ça,
dans l'App Store, etc. Mais je crois qu'il y a une vraie préoccupation de la barrière installée par les géants de la tech qui fait que personne ne peut entrer en compétition avec eux. Il y a une vraie préoccupation là-dessus. Alors évidemment, il se trouve qu'ils sont tous américains et nous, en Europe, on aimerait bien avoir des gens qui puissent créer des compétiteurs dans certains domaines, en fait. Évidemment, on ne va pas lancer un compétiteur à Apple, mais peut-être dans le domaine des messageries, il y aurait moyen de faire quelque chose, etc., etc. Et je crois qu'il y a une vraie préoccupation sur cette question de marché verrouillé, quoi. Et c'est évidemment compréhensible, parce que à partir du moment où le marché n'est plus sain, eh ben, ça fait que ceux qui ont déjà une énorme part de marché et d'une partie du commerce continuent à exploiter cette partie qu'ils ont, et les autres ne peuvent pas rentrer. C'est très excluant, et c'est un vrai problème. Moi, je ne sais pas si c'est spécifiquement pour ça.
En plus, ils ne peuvent pas rentrer. Ouais, en plus, ils peuvent pas rentrer parce que des sociétés comme Apple paient très peu d'impôts, alors que eux n'ont pas ces possibilités d'optimisation, etc. Enfin, je pense que c'est assez politique et que tout s'est accumulé autour des GAFAM. Oui, et économique, mais tout s'est accumulé en fait autour des GAFAM, entre les questions de loi antitrust, les questions d'optimisation fiscale et ainsi de suite, parce qu'ils sont tous dans le Delaware, on le sait. Hein.
Oui.
Mais
et puis en Irlande et au Luxembourg.
Voilà, et le truc, c'est qu'on ne peut pas les faire plier sur tout, mais ça, c'est un truc sur lequel on peut les attaquer. Et c'est, entre guillemets, assez facile, parce que là, pour le coup, si la loi européenne impose ça, la loi européenne impose ça. Jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps, la loi française imposait d'avoir un kit piéton filaire fourni avec les téléphones. Cette loi a été abolie elle a été retirée pour des questions d'écologie aussi, et puis aussi elle arrivait au bout. Donc là, depuis quelques mois, en fait, les iPhones ne sont plus vendus avec des oreillettes, alors que jusqu'à présent, il y avait toujours, pour la France et uniquement pour la France, une petite boîte en plus qui contenait le kit piéton filaire.
Ouais, ce qui montre que ce qui montre que...
Donc on peut arriver à adapter au marché.
C'est ça. Et puis, on peut aussi, contrairement à ce que disent les détracteurs souvent, c'est « Ah oui, du coup, la loi est comme ça et elle ne va jamais changer. » Ben non, on peut l'adapter.
Non,
oui, bien sûr, c'est plus lent. Évidemment que ça va être plus lent, ça va donner parfois des lois un petit peu incohérentes, mais ça peut être adapté aussi. La différence, c'est que là, c'est monumental. Enfin, j'ai parlé de tremblement de terre. Si elle arrive en l'état, c'est vraiment une loi qui est un changement,
et
je ne vais pas parler de casse-tête, mais un changement énorme pour la manière dont les GAFAM opèrent
Europe. Je vois la peur, je comprends la peur de Jérôme de se dire « Ouais, mais attends, moi si demain mon iMessage, il est interopérable, mais en gros ça devient juste un SMS parce que Apple a décidé de retirer, je sais pas, les Mimoji parce qu'il adore ça ou je ne sais quoi », ça pourrait être ça, hein. Il pourrait dire « Ok, on le rend interopérable ». Mais à minima, on prend le plus petit dénominateur commun qui est « j'envoie juste du texte ». Tu vois. Donc, on aurait une version dégradée d'iMessage. Mais j'ai envie de te dire, je ne pense pas qu'Apple s'amuse à ça. Il y a peu de chances qu'il s'amuse à ça. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des marchés comme la Belgique où le HomePod mini, par exemple, vient à peine de sortir. Où certains services sont actifs chez Apple, hein, que depuis quelques mois, en fait. La reconnaissance, le voice match, etc. Pour des questions législatives, en fait, souvent. Et en fait, c'est comme ça, mais c'est la loi et on ne peut pas passer outre. Alors, c'est assez rageant. Mais si tu regardes, c'est déjà le cas actuellement. Aux États-Unis, le permis de conduire, il peut être dans le wallet, dans certains États, à tous.
Ouais, et pas
dans nous, ça n'arrivera jamais, puisque l'Europe a décidé d'avoir sa propre application de papier d'identité, etc. Donc nous, on aura une autre application qui sera peut-être même pas compatible avec le wallet. Et c'est rageant parce qu'on se dit, c'est dommage, on a le wallet, je pourrais l'avoir sur ma montre, machin truc. Bon, c'est comme ça, quoi. Et il y a récemment que Apple, par exemple, a adapté le pass vaccinal anti-Covid, où on peut l'ajouter dans l'application santé et dans le wallet.
Ah, le pass français, je ne savais pas que, c'était, que ça avait mes...
Oui, oui, en fait, il suffit que tu ouvres ton appareil photo et tu scannes ton pass français, et il va te proposer automatiquement de l'ajouter à santé et à wallet. Et à santé, du coup, bah, tu as ton suivi médical où tu vois quand tu t'es fait vacciner, avec quel type de vaccin.
Moi, tu sais, je suis en Finlande, donc j'ai le pass finlandais, c'est pas tout à fait pareil.
Oui, mais peut-être qu'il marche, le pass finlandais.
Oh oui, oui, mais oui, mais moi, donc, je l'ai mis dans le wallet.
Il y aura peut-être des adaptations, mais sur l'acquis, normalement, il ne devrait pas y avoir de retour en arrière. Ce n'est pas la politique d'Apple. Ils ne sont pas vraiment comme ça, en fait.
Bah, c'est un petit peu... je vais donner la parole à Jérôme pour le mot de la fin. Mais oui, moi, je suis un petit peu sur la même longueur d'onde. Il y a certainement des choses qui vont faire que... Enfin, des éléments qui vont être, du coup, moins pratiques en retard dans l'Union européenne. La question, c'est de savoir si... C'est ce que tu disais tout à l'heure, Cédric, la motivation importante. Est-ce que on comprend cette motivation, on est d'accord avec ou pas? Et là, je pense que la motivation, c'est le dynamisme économique, en particulier dans l'Union européenne, dans ces secteurs. Est-ce qu'on peut encore être compétitif dans ces secteurs-là avec des géants qui sont tellement grands et qui ont construit tellement de digues autour de leur marché?
Ouais, ils sont au-dessus de la loi.
Voilà. Et du coup, dans ce contexte-là, je me dis, ouais, on parle de l'hégémonie des GAFAM depuis maintenant des années. Eh ben, on voit que l'Europe tape du poing sur la table et est suffisamment puissante, on espère, pour taper du poing sur la table. Et c'est ce dont on parle depuis un moment. Et peut-être que c'est nécessaire, même si ça a des effets négatifs aux marges, quoi, au bord. Jérôme, tu veux conclure sur le sujet ?
Il y a peut-être une chose que sous-estiment les marques par rapport à ça, si on revient dans les notions de concurrence qui sont sclérosées, étouffées, c'est que moi, j'ai l'impression dans la tech, si on la prend au sens large, que là, un petit peu d'air pour la concurrence ferait du bien pour l'innovation générale. Que ça soit software, hardware, les innovations deviennent incrémentales et minimales, les marchés se sclérosent. Et je pense qu'un Apple aurait besoin d'un peu plus de concurrence dans son précaré, ne serait-ce que pour motiver les troupes, tu vois, les challenger un petit peu. Donc, peut-être qu'elles ne le savent pas, les marques, mais peut-être qu'elles ont besoin un petit peu de ça.
Possible, oui.
On verra.
Mais ce n'est pas d'elles-mêmes qu'elles vont ouvrir la porte. Hein. Ça, on l'a...
Non, c'est contre nature pour une entreprise de dire « j'ouvre à la concurrence ». On ne peut pas leur demander d'être ouverte là-dessus.
D'ailleurs, depuis le 15 mars, en Corée, on peut choisir son système de paiement quand on fait des achats in-app. Mmh. Ça, on en parle peu, mais comme quoi, tu vois, le store est toujours là, il continue à vendre des iPhones, il ne se retire pas du marché.
Ils l'ont
adapté à la
C'est le problème des 27% dont je parlais. C'est le problème des 27% qu'ils prennent toujours.
Il y a deux ans, je t'aurais dit, ce genre de truc va tellement détériorer l'expérience Apple que ça ne marchera pas. Aujourd'hui, je ne suis plus réservé. Je pense que d'abord, Apple est solide et qu'ils peuvent faire face à un petit peu de concurrence, ça ne leur fera pas de mal.
Mais c'est ça, en fait. C'est qu'on se dit aujourd'hui, du coup, là, il faut que la compétition se fasse sur la qualité du produit. Plutôt que juste sur la garantie, la promesse que « Ah non, on vous assure, c'est mieux. » Quand c'était des petits, enfin, quand ils étaient plus petits, on pouvait dire « Ok, eux, ils vont proposer ça comme ça, ils verrouillent tout pour dire « Ben voilà, c'est notre solution, on vous la propose. » Là, c'est plus les mêmes règles. Ils sont tellement grands, on se dit « Ok, votre solution, elle est meilleure telle quelle, bah, que le marché le prouve. » Et c'est ce qu'on demande, en fait. C'est que le marché puisse fonctionner. Parce que souvent, on nous parle des dérives du marché ouvert et du capitalisme, et bien sûr qu'il y en a, mais l'un des trucs qu'on oublie, c'est qu'un marché sain, qui est l'un des fondements du capitalisme, c'est un marché où la concurrence peut exister. Et souvent, quand on parle des problèmes de ce type d'organisation sociétale, on prend des exemples où la concurrence n'est pas saine. Et là, c'est un bel exemple, je crois, parce que même si on vante les qualités d'Apple et nous les premiers, d'Apple et des GAFAM, il faut avouer que la concurrence est devenue très, très difficile et que du coup, le marché n'est plus très sain. Donc là, on rétablit un petit peu de ça, quoi. Bref. Vous savez ce qui est sain également ? Je vous le demande, mais je vous donne la réponse. Ce qui est sain, c'est de pouvoir, si on le choisit et si on en a les moyens, soutenir les créateurs dont on apprécie le contenu. Par exemple, au hasard, le rendez-vous tech. Vous allez sur patreon.com/rdvtech et vous pouvez donner l'équivalent d'un petit café, d'un petit bar chocolaté pour soutenir l'émission. Si vous pensez qu'on vous apporte un petit peu quelque chose, un éclairage sur des sujets que vous n'auriez pas forcément compris, si vous pensez qu'on vous fait passer un bon moment dans les transports en commun avec votre masque, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et rejoindre la grande fratrie. Plus même que la famille, nous sommes tous frères et sœurs, des patriotes qui soutiennent les créateurs qu'ils apprécient. Vous rentrez chez vous, vous laissez les clés dans le bol, ça fait cling. Et là, vous dites, oh Patrick, je vais être honnête, vous pourriez le faire maintenant, tout de suite, là, si vous voulez, dans les transports ou si vous êtes au bureau, n'importe où. Vous allez sur patreon.com/rdvtech et vous pouvez soutenir l'émission, ça prend 2 minutes, même sur votre téléphone. Même, et vous n'avez pas besoin de passer par un moyen de paiement Apple qui va garder 30%. Non, vous allez sur le site, ça marche très bien. Mais sinon, quand vous arrivez chez vous, vous connaissez la rengaine, cling Patrick, et là vous vous dites, mais il faut que j'aille sur patreon.com/rdvtech. Tout à fait.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On continue. Allez, un petit peu plus rapidement avec le reste de l'actu. Et la première news, Elon Musk a pris presque 10%, 9,2% des actions, alors des actions passives, de Twitter. Mais après ça, il a dit, est-ce que vous pensez que Twitter respecte la liberté d'expression? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait un bouton éditer sur Twitter, machin? À quoi il joue, Elon Musk? Jérôme, quand tu lui as parlé la dernière fois, il t'a dit ou il t'a pas dit?
Écoute, pour lui, 3 milliards, on peut pas dire que c'est de l'argent de poche, parce que c'est quand même de l'argent, mais globalement... dans son côté un peu Elon Musk troll, maintenant il troll avec des milliards. C'est-à-dire que oui,
mais il a pas acheté des actions pour Twitter, c'est pas pour rien.
On l'a vu ce matin. C'est-à-dire que oui, il achète des actions qui lui donnent pas vraiment de droit de vote au board. Mais maintenant, il se met à faire des sondages sur Twitter en disant est-ce que vous voulez qu'on rajoute un bouton modifié? Il est déjà le patron de chez Twitter, et si quelqu'un lui dit « Non mais attends, Elon Musk, c'est pas toi qui décide », il dira « Écoute, j'ai 9,2% de tes actions, donc t'es obligé de m'écouter ». Enfin, c'est du Elon Musk. Moi, j'avoue que... je suis très partagé. J'ai de la sympathie pour le bonhomme, mais je suis hautement irrité par
c'est
sa manière de faire.
C'est de la sympathie pour ce qu'il fait, mais...
Mais... Tu vois, c'est comme quand il a dit « Ouais, je veux faire un fight avec Poutine et le lot sera l'Ukraine. » T'es gentil, tu donnes pas un pays qui est pas à toi.
Non, c'est très disrespectful.
C'était d'une goujaterie. Et là, c'est un peu pareil. Je suis pas très content avec Twitter. Il y a un côté bullying qui commence à m'irriter de plus en plus.
C'est la culture du shitpost, tu sais, la culture du mail qu'il a et bon.
J'ai un côté goguenard, je sens un vieux mot français, mais le côté goguenard d'Elon Musk commence à m'irriter.
Voilà. J'ai mis sur Twitter un Twitter contrôlé par Elon Musk, ça serait la plus grosse motivation que j'ai eue jusqu'à maintenant pour quitter la plateforme, et pourtant Dieu sait qu'il y en a eu. Et j'ai eu peut-être 4-5 personnes qui sont venues me dire « Ah mais pourquoi ?» Genre, tu sais, tu sens les gens qui, dans leur bio Twitter, ont Elon for life, tu sais, c'est les fans.
Oui, non, mais après, tu vois, je peux comprendre le côté très fan d'Elon Musk. C'est un mec qui fait bouger les lignes comme personne ne l'a fait.
Bien sûr.
Donc, je suis pas en détestation de ce qu'il fait. Ouais.
On a passé tout l'épisode précédent, le spécial sur les véhicules électriques, à parler des qualités de Tesla et des raisons pour lesquelles ils ont fait des choses que d'autres ne pouvaient pas faire. On a évidemment SpaceX, Starlink, on parle de plein de projets d'Elon Musk qui sont assez incroyables, mais oui. Bon, autre sujet, oui, d'ailleurs, en passant très rapidement, les élections présidentielles sont déjà dénoncées comme manipulées dans l'infoxosphère de Twitter. Donc, ils commencent déjà à préparer le terrain pour dire « Ah bah regardez, les élections sont manipulées, il y a des machines à voter qui sont contrôlées par les États-Unis, machin. » Ce qui, évidemment, enfin, n'a aucun sens. Mais c'est, je le mentionne parce qu'on sait ce que ça a donné aux États-Unis avec l'invasion du Capitole le 6 janvier, j'espère que ça n'ira pas aussi loin, mais je mentionne que ça commence à tourner dans les sphères complotistes. Cédric, le groupe Lapsus, qui a hacké Microsoft, Nvidia depuis quelques mois, qui était complètement incroyable, il se trouve qu'il a été remonté jusqu'à 7 personnes qui avaient entre 16 et 21 ans, et leur leader à 17 ans. Et c'est un hacker complètement hors pair, totalement incroyable. Il a été incarcéré et inculpé criminellement en Angleterre. Est-ce qu'on est surpris encore d'avoir des hackers super puissants qui sont des enfants de 16 ou 17 ans? On a l'impression de voir un film presque, tu sais. Mais toi, tu es en contact avec ces jeunes.
J'en ai autour de moi. Non, mais en fait... Il y a plusieurs solutions. Quand on s'ennuie et qu'on est un peu geek, on essaie de casser des trucs, quoi.
Ouais.
C'est vraiment ça. C'est le défi. Et puis maintenant, il y a une vraie culture du hacker. Même si ce qu'ils ont fait, ils ont volé des documents, machin. Ils se prenaient un peu pour des Robin des Bois parce qu'on parle d'Nvidia, de Microsoft. Enfin, je veux dire, c'est des noms qui... Quand tu les accroches à ton palmarès, voilà.
Ouais.
Il existe des concours de hack. Enfin, Corben serait bien placé pour en parler, mais moi j'ai des étudiants qui participent à énormément de concours de cybersécurité. On a même chez nous en interne un module sur la cybersécurité où on leur apprend à prendre le contrôle d'un serveur web, etc. Enfin voilà. Mais ça fait partie en fait de la culture aussi pour apprendre à s'en défendre. Mais je peux comprendre que du coup le week-end quand on s'ennuie. Plutôt que d'aller jouer à placer des pixels, on fait autre chose, on fait du reverse engineering sur des protocoles, on teste des trucs. Moi, je suis pas étonné, en fait. Je veux dire, à une époque, dans les années 80, nos parents, ils allaient voler des autoradios dans des voitures.
Là où je rejoins Cédric, c'est que sur des choses comme ça, c'est pas forcément... une expérience de carrière qui va... C'est souvent une question d'avoir du temps pour faire des choses expérimentées. Et c'est vrai que c'est un temps que tu n'as pas quand tu es plus âgé, de passer du temps sur ce genre de choses, en fait. Donc, moi, ça ne m'étonne pas du tout non plus que des hackers sont très jeunes, quoi.
Là, il faut avouer qu'ils étaient très, très, très bons. Hein. Ils n'ont pas été nommés parce qu'ils sont mineurs. Mais le leader en particulier, je crois qu'on en parlait il y a 2 semaines quand on avait évoqué la chose... les chercheurs en sécurité voyaient le type aller tellement vite. Au départ, ils pensaient que c'était un script.
Oui, c'était un script ou un... Oui, c'est ça.
Ouais. Donc, il a été il a été arrêté. Ils les ont trouvés. Et ce n'était pas un groupe hyper organisé, comme on le voit parfois par des groupes étatiques. Ils étaient même, comme tu le disais, Cédric, en train de se... Oui. vanter de leurs exploits ici et là, donc...
Des vrais jeunes cons, quoi.
Des vrais jeunes cons. Jérôme, est-ce que tu dois filer? On a un ou deux sujets
je
à traiter
filer,
encore.
Je dois filer, hélas. J'aimerais bien rester avec vous, mais je dois filer, donc je vais vous quitter un petit peu en avance. Vous
m'en
voyez fort désolé.
Merci
beaucoup, en tout cas, pour l'invitation. Team Printemps. Team Printemps, c'est important. Rendez-vous dans 5 ans.
Normalement, la team automne est plus importante. Peut-être que c'était pris en compte parce qu'il y a plus de naissances qu'un jumeau à l'automne. avec les soirées d'hiver.
Ah, non, c'est l'hiver, c'est l'hiver. C'est l'hiver, l'hiver qui est énorme. Ah ouais, l'hiver était énorme, ils arrivaient à effacer des trucs. Ah, oui. Mais ah, la vraie team la plus importante, c'est la team Cook. Et sur ces bons mots...
oh là là.
Sur ce bon mot, je vous quitte.
Merci Jérôme.
Merci Patrick. À dans un mois. Et à très bientôt. Ciao tout le monde.
Jérôme Kainborg sur Twitter. Ciao. Donc il nous a quittés. Juste pour là, il devait partir.
Toujours les meilleurs qui partent en premier.
Mais du coup, on peut maintenant parler du réseau social de Donald Trump, Truth Social, qui, bah, c'est un petit peu le moment de faire un premier bilan du lancement, on va dire. Ça fait quoi, un mois et demi qu'il a été lancé. Et bah, il se retrouve, d'abord, il y a très peu de gens qui ont accès au réseau. Après le lancement initial, la plupart des gens sont toujours sur liste d'attente. Il a vu son nombre de téléchargements chuter de 95%. Alors là encore, c'est pas monstrueusement étonnant, étant donné qu'au lancement, on a des chiffres monumentaux. Mais il a également seulement 513 000 utilisateurs quotidiens, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui ne me paraît pas complètement ridicule non plus. Bon, il a en tout cas perdu 30% de sa valeur depuis le lancement, sa valeur boursière. La chose la plus notable, c'est que d'une part, il y a des gens qui sont dans l'équipe des exécutifs de la société qui sont en train de partir. Et surtout, Donald Trump ne l'a toujours pas utilisé. Ça, c'est la chose qui est la plus surprenante. Et j'en parlais déjà depuis quelques semaines. Bon, c'est difficile de prévoir, hein. C'est juste une étape, mais est-ce que tu penses que ça va donner quelque chose, le réseau social de Donald Trump, ou là, on est en train de se diriger vers un énième flop de ce réseau social pour la liberté d'expression, vous entendez les guillemets,
ouais.
Qui est en fait le refuge d'une extrême droite un petit peu véhémente. Qu'est-ce que t'en penses? Le truth social, c'est en train de...
Non, c'est la fin, enfin.
Tu crois?
Ouais, en fait, le truc, c'est que, tu vois, pour revenir au truc de Reddit ce week-end, ça montre que ces gens-là sont pas du tout majoritaires, et c'est ça qui fait plaisir. Et donc, du coup, penser que tout l'Internet est derrière nous, et donc on peut lancer un réseau social parce qu'on est persuadé que, ben voilà, la moitié des Américains ayant voté, c'est la moitié du monde, et que la moitié des Américains ont voté pour Trump, je parle. Hein,
oui.
Encore, c'est même pas vraiment ça, mais bon, à la louche.
Ouais, c'est se pas dire du tout que, bah, ça du même, coup, mais oui, le système...
Non, mais voilà, mais dans la tête des gens, c'est le raccourci, quoi. Et donc, se dire qu'on peut lancer un truc parce que c'est la moitié du monde entier, en fait, pas du tout, et que in fine, bah, ça
devait finir. Moi, j'irais même plus loin, à mon avis, s'ils avaient récupéré autant de gens actifs qui les suit dans leur aventure politique, parce que le camp Trump est toujours extrêmement fort, et j'irais même jusqu'à dire qu'il est possiblement majoritaire, enfin qu'il est majoritaire, qu'il contrôle un petit peu le parti républicain aux US, enfin ils sont un petit peu dans la merde. Mais ce que ça note, c'est que bah, ces gens-là restent sur Facebook, quoi, plutôt, plus que, oui. Tu vois, parce qu'ils existent, mais ils existent.
Oui, ils restent sur Facebook parce qu'on les a fait
à changer et ça montre peut-être l'hégémonie des GAFAM, là encore, mais...
On les a virés de Twitter, du coup, ils sont sur Facebook, ils ont leur propre réseau social. Bon, le problème aussi, c'est entre soi. C'est-à-dire que ces gens-là aussi ont une motivation à aller à un endroit parce qu'ils peuvent se confronter à d'autres. Or là, en fait, on arrive sur un truc où il y en a un qui dit « Ouais, on n'est pas raciste !» et l'autre qui dit oh, « Je suis d'accord avec toi !» et « Ouais, ok. » Bon, bah voilà, et fin de la conversation, en fait, tu vois. Ouais. Donc, je veux dire, la motivation de revenir, voir ce qui s'est passé, de pouvoir lyncher les adversaires politiques et tout, c'est valable que si l'adversaire politique le voit, mais s'il lui-même le voit pas, en fait, bah, ça a très peu d'intérêt.
C'est un peu une preuve de plus, ou on va dire un indice de plus, sur le fait que ce qui marche sur les réseaux sociaux, c'est vraiment les controverses, les choses qui font réagir négativement.
Mais regarde,
quoi.
Imaginons... Que tu ne sois pas d'accord avec un candidat à la présidentielle en France, là, je sais pas, on en prend un au hasard. Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Tu n'es pas d'accord avec lui. Si tu as envie de lui dire que tu n'es pas d'accord avec lui, bah, il vaut mieux que tu... Enfin, il faut le mentionner, sinon ça n'a aucun effet. C'est comme si tu écrivais ça sur un post-it sur ton bureau et ça n'intéresse personne. Non, mais, et en fait, le problème de leur réseau, c'est ça. C'est-à-dire que, ouais, Joe Biden, c'est vraiment un salaud, il nous a volé l'élection. Ok, mais c'est bien, vous le dites entre vous, mais en fait, on s'en fout. Le reste du monde ne le voit pas. Ouais. Et vous pouvez prendre personne à témoin, en fait. Ouais. Donc, du coup, c'est un peu d'intérêt.
Il y a l'image du sur le bureau, ouais. Bon, disons
mais
que
c'est exactement ça.
Il y a quand même un facteur embrigadement, tu vois, plongé dans les réseaux conspirationnistes où tu t'emballes toi-même et les autres. Et puis, il ne faut pas non plus oublier la question des problématiques techniques, le fait qu'il n'ait pas ouvert plus les inscriptions au réseau. On se demande si ce n'est pas dû à des questions de capacité de serveur. Enfin, j'en sais rien, mais c'est quand même... Mais le problème fondamental de tous
de l'argent,
ces réseaux,
c'est pas monétisable.
C'est ce dont tu parles. Oui, oui. C'est pas monétisable, voilà. D'accord. Difficilement, quoi.
Qui va aller payer à annoncer dans un réseau social rempli de gens avec des idées nauséabondes ? Je crois personne, en fait.
Ouais.
Voilà. Ouais. Donc, c'est ça la problématique. Et c'est pour ça que, honnêtement, on a fait tout un pataquès de ce truc-là. Et dans les faits... À la limite, on pourrait s'en inquiéter si ils se mettaient à lancer des raids, tu vois, haineux sur d'autres plateformes comme Twitter ou Facebook ou peu importe. Là, ça pourrait poser problème. Et du coup, ils ont leur coin à eux dans lesquels ils préparent leurs assauts, machin. Ok, mais même ça, en fait, je suis même pas certain que.
Et puis c'est pas le. Ouais. Et puis, mine de rien, ce que ça donnerait, c'est que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, quand ils se sont fait sortir, et c'est pas uniquement avec Donald Trump, mais le consensus social fait que quand ce genre de choses se produit, bah, la société, et c'est le seul mot qu'on peut employer, mais par l'intermédiaire de différentes sociétés commerciales qui disent bah, on veut plus mettre de pub là-dessus, on retire nos campagnes, qui font ça parce qu'il y a une pression sociale par ailleurs, par les citoyens. Eh ben, ça fait que l'inacceptable n'est pas accepté dans certains cas. Hein, évidemment, on n'est pas en train de dire qu'il y en a nulle part sur les réseaux sociaux. Évidemment que ce n'est pas le cas. Mais dans les cas les plus extrêmes, et ça s'appliquerait dans le scénario que tu décris. Et donc, ce n'est pas possible de faire ça comme ça. Mais je pense que tu dis, oui, on en a fait tout un pataquès. Moi, je pense que la question se posait au départ, tu vois, au lancement. C'était
oui,
quand
bien
même,
sûr, on peut en avoir crainte. Quand je dis on a fait un pataquès, c'est que... Il n'y avait pas un journal, même en France, hein, qui ne parlait pas de ce truc-là, parce que c'était très médiatique, puis c'était Trump, puis on se rappelle de l'invasion du Capitole, etc.
C'est ça.
Ça a marqué les esprits. Mais maintenant, avec le recul, on se dit, mais en fait, ça ne valait même pas le coup qu'on en parle. Enfin, c'est vide.
Ouais. L'autre sujet que je voulais évoquer... Pardon ?
Et c'est rassurant, je trouve.
Oui, c'est un peu... Bon, disons que le Trump Media Group, il pourrait lancer d'autres choses. On pensait à des chaînes de télé où il vendrait du merchandising pour continuer à financer ses activités. Mais bon, là, ce qui est clair, en tout cas, sans aller plus loin que ça, on peut dire que le réseau social, bah, pour le moment, est au moins en difficulté, quoi. Apple serait en train de réfléchir à un système d'abonnement, mais d'abonnement aux iPhones. C'est-à-dire qu'on payerait un abonnement, un petit peu une formule type leasing de voiture. Donc, on payerait une certaine valeur par mois et on aurait le nouvel iPhone tous les ans. Ce n'est pas la première fois qu'un truc similaire se profile. Et à vrai dire, quand on achète nos téléphones par l'intermédiaire d'un opérateur, c'est un truc qui peut ressembler dans la forme. Mais dans le fond, ça serait un petit peu différent parce que ça serait vraiment du leasing depuis Apple, et Apple qui serait en train de mettre en place toute une série de services financiers en interne pour pouvoir gérer la chose et qui pourrait étendre ces services financiers plus loin ensuite. Bon, ce n'est pas la news de l'année, mais c'est encore un moyen dont Apple pourrait augmenter les revenus par utilisateur parce qu'on parle souvent du fait qu'aujourd'hui, les gens n'achètent plus qu'un téléphone tous les 3 ans, ce qui revient à tant de... telle somme par an, si on ajoute en plus les différents accessoires, etc. Et bien là, s'ils font le calcul et qu'ils vendent un tout petit peu plus cher par mois pour gagner 200 € ou machin de plus, mais en contrepartie, tu as toujours le dernier téléphone, ça pourrait toucher une partie des clients d'Apple. Bon, je suis sûr qu'ils font les calculs chez eux. C'est pas la plus grosse news Apple de l'histoire, mais je trouvais ça intéressant, surtout qu'ils mettent ça en interne. L'autre news Apple, c'était le fait que Coda, gagne 3 Oscars, y compris le meilleur film. Coda, c'est un film qui est exclusif et financé, on va dire, par Apple, qui est exclusif à Apple TV, plus du cinéma, qui est un remake de La Famille Bélier, mais qui est une approche assez différente. Et certains disent, bah, vous voyez, voilà, Coda, premier film de streamer qui gagne l'Oscar du meilleur film, c'est pas Netflix, c'est Apple qui l'a eu. Regardez Ted Lasso, le succès monumental qu'a la série, sur, allez, on va dire qu'ils produisent un dixième des séries ou des films de la concurrence, mais que la reconnaissance est peut-être plus grande, et donc la stratégie qualité plutôt que quantité semble fonctionner. Cédric, est-ce que tu es fan d'Apple TV Plus ? Est-ce que tu achèteras un téléphone
En fait, il faut savoir que ça existe déjà, l'iPhone Upgrade Programme aux États-Unis, tu sais.
Alors, ça, c'est pas tout à fait la même chose, parce que ça ressemble beaucoup, oui.
Il y a Apple Care Plus dedans, etc. Tu vois, et tous les ans, tu changes de téléphone.
Tout à fait, ouais.
Et c'est indépendant de ton opérateur, et tu payes entre 35 et 50 dollars ou 60 dollars en fonction de l'iPhone que tu veux. Et tous les ans, eh ben, t'es éligible à changer ton téléphone, en fait.
Ouais.
Donc voilà.
Et c'est un petit peu le même système, sauf que c'est vraiment sur le papier, ça serait du leasing, et c'est géré par Apple. Tous les services financiers seraient gérés par Apple.
Ouais, et en plus, la différence, en fait, c'est surtout qu'il y a les services associés. C'est-à-dire qu'il y aurait Apple One dedans. Alors que là, pour le moment, il y a juste l'Apple Care Plus. Et c'est tout. Et le téléphone, en fait. Mais là il pourrait aller plus loin. Et aussi, la rumeur dit que ça ne se limiterait pas surtout que aux iPhones, en fait. Donc, c'est surtout ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ce soit sur l'iPad ou pourquoi pas le Mac, tu aurais la possibilité de faire du leasing sur un MacBook Air, par exemple. Et tous les ans, quand il y a le M1, M2, M3, machin, bah, tu le changerais, quoi. Moi, ça me fait un peu peur pour l'aspect écologique du truc, mais bon, voilà, quoi.
C'est une des préoccupations, c'est certain. Peut-être qu'ils pourraient récupérer l'ancien et le revendre ailleurs.
C'est sûr, après, ils en font des écrans. Ils en font des écrans, puisqu'ils ont mis des iPhones dans les derniers écrans qu'ils... Enfin, des processeurs A13 dans les
derniers
écrans.
Ah oui, les processeurs, oui, effectivement. Ouais. Dernière chose que je voulais évoquer... Ah oui, et tu disais Apple TV+, toi, tu es... Client.
Ah oui, moi je suis un consommateur d'Apple TV+. Alors pas tout, mais j'ai regardé évidemment Ted Lasso, j'ai évidemment regardé Fondation, et quelques films ou des petits docus aussi qu'ils font, qui sont plutôt pas mal. Surtout, c'est pas très cher, Apple TV+. Et les programmes sont plutôt de qualité, je trouve. Donc,
c'est ça la question, par rapport à du Netflix ou du Disney+, ou du HBO.
Le catalogue est moins rempli, clairement. Ouais. On va pas se mentir. Hein.
Mais c'est eux qui ont eu le premier film, meilleur film, tu vois. C'est, Netflix doit voir rouge, là, pour le coup.
Comme le logo, sans doute. Mais j'avoue qu'il y a des... En fait, ils ont de l'argent. Ils savent attirer des grands noms. Et ça marche, en fait. Le seul truc, j'ai lu un article autour de ça sur Apple TV+, c'est qu'ils sont quand même pas de l'industrie du cinéma ou des séries. Et que du coup, ils ont encore tendance à proposer des façons de faire qui correspondent pas aux standards de l'industrie du cinéma et de la série sur la production et des financements, etc.
Il
y a quelques petits accrochages parfois.
Ouais, c'est ce que tout le monde craignait, à vrai dire, que Apple, le contrôle d'Apple ne fonctionne pas dans le contexte de l'industrie de la production audiovisuelle. Et ce qu'on voit, c'est que oui, ça fonctionne plutôt pas mal. Après, on peut apprécier ou pas apprécier, mais ça fonctionne, quoi. Allez, dernière chose que je voulais mentionner, je vous parle en tout cas, depuis un certain temps, de deux pays qui sont de plus en plus restrictifs sur les droits sur Internet, c'est la Russie et la Chine. La Russie, on voit un petit peu ce que ça a donné. La Chine est en train de planifier, selon certaines sources, d'étendre encore ses restrictions à tous les domaines d'Internet, au streaming live, à l'industrie du streaming, c'est-à-dire qu'il limiterait le nombre de fois qu'on peut donner des soutiens financier par jour, et surtout plus de censure sur le contenu de ce que disent les personnes sur ces sites. c'est pas quelque chose qui est surprenant ou même vraiment incroyablement notable en soi, cette petite news. Mais on a vraiment une problématique, une tendance problématique qui se forme depuis un certain temps. Hein. C'est plutôt pour moi l'occasion de rappeler ça. Je vous en parlais, ça faisait quelques années sur la Russie. Et c'est pas uniquement la Russie, on est vraiment en Chine sur des alors j'apprends rien à personne hein, sur la Chine et les problèmes de droits humains, mais ça se manifeste vraiment dans la tech aussi avec ce resserrage de vis qu'on a vu s'opérer depuis 2 ans. La Chine allait dans une certaine direction et les institutions politiques ont décidé que ça suffisait. Et le problème, parce que je dis souvent, pour comprendre le monde, il faut comprendre la tech. Et c'est un signal qui montre que ce qu'on voit en Chine ailleurs que sur la censure depuis 20 ans, ça pourrait changer aussi. Et souvent, la manière dont les institutions gèrent ce genre de choses est un indicateur sur la nature des institutions. Et là, on voyait plus d'ouverture depuis 20 ans. Limité, mais dans une certaine direction, et bien là, ça se referme. Et ça peut avoir des conséquences sur tout le reste de la société chinoise aussi. Donc, bref, je le mentionne. Ce n'est pas la première fois et ça ne sera sans doute pas la dernière. Mais vu comment ça s'est goupillé avec la Russie, je garde un œil inquiet sur l'Asie également.
Ah ben évidemment, oui.
Mais tu sais, c'est marrant parce qu'on a beau dire... et répéter, je crois, notre génération, ou peut-être que je t'inclus dans ma génération à tort, mais à quel point les échanges économiques qui sont souvent décriés et critiqués comme une question d'obsession par l'argent et de capitalisme, comme on dit en anglais, late stage capitalism, qui est bien sûr que le système qu'on connaît aujourd'hui n'est pas parfait, mais on a tendance, je crois, parce qu'on a connu une telle période de paix, on a tendance à oublier l'importance des échanges commerciaux. Et ce que ça fait pour l'apaisement, littéralement, l'apaisement, l'ajout de paix dans le monde, même si ça a des excès par ailleurs. Et si ça mène en Chine à des problèmes qui limitent les échanges commerciaux, ça peut ensuite avoir d'autres effets qui sont bien plus inquiétants. Et bon, bref, je suis un petit peu... Les échanges commerciaux sont pas justes. C'est marrant parce qu'on a l'impression que quand on dit ça, c'est genre « Oui, bah, regarde, tu défends les gens qui font de l'argent dans le monde, machin. » Non, moi, j'aime juste la paix, en fait. C'est ça qui me préoccupe, oui, c'est ça. Tu vois. J'aime bien qu'il n'y a pas la guerre mondiale. C'est ça qui me plaît pas mal.
On a des intérêts communs, etc. Il n'y a pas de raison qu'on fasse la guerre, en fait, normalement.
Oui.
Mais quand la relation est trop distendue ou n'est pas sur le même pied d'égalité, et c'est le cas avec la Chine, hein. Honnêtement.
La Chine, c'est ça en fait, c'est que ça peut dérailler très très vite.
C'est ça, la Chine n'a pas besoin de nous en fait. Et en fait, c'est là qu'elle a eu besoin de nous par le passé, mais maintenant elle n'a plus besoin de nous, sauf l'achat de marchandises, etc. Hein.
Oui et non, leur balance commerciale est quand même. Tourner vers l'extérieur.
Elle est déséquilibrée. Voilà, mais parce qu'on est là. Mais si demain la Chine décidait.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils font la fine bouche avec la Russie en ce moment. C'est pas pour autre chose.
Bien sûr. Bah oui, parce que pour eux, je pense qu'au fond, ils aimeraient bien les soutenir parce qu'ils ont les mêmes velléités sur d'autres territoires. Mais la problématique, c'est que s'ils le font et que nous décidons d'arrêter. Alors on ne pourra pas du jour au lendemain parce que.
Avec la Chine.
C'est compliqué, la Chine. Hein. Oui. Mais si on décide de limiter nos importations de produits chinois, bah, ils ont beaucoup plus à perdre aujourd'hui que oui. Nous, finalement. Enfin,
je voulais pas me lancer dans de la géopolitique de comptoir, ce n'est pas notre spécialité, mais c'est un petit peu pour ça que je le mentionne. C'est quand on voit comment a évolué la Russie et les prémices qui étaient mouvement totalitaire de contrôle de l'information et qu'on voit la Siri, je ne voulais pas envoyer ces informations au serveur américain d'Apple. Bref, je ne dis pas Chine et Russie même combat, mais enfin, il y a quand même des similarités. Quoi. On n'est pas du tout dans la même situation, mais bref. Bon, Cédric, Merci d'être resté jusqu'au bout. T'es un vrai, toi. T'es comme, comme ceux qui sont restés jusqu'à... C'était quoi, 4 heures du matin?
Exactement.
Sur r/place.
Une heure et demie, ouais.
Où te retrouve-t-on sur Internet, dis-moi, quand tu n'es pas dans
le... Le plus simple, ça va être Twitter, @CédricDeLuca. Donc, Cédric, le chiffre 2 et L-U-C-A. Voilà, tout simplement. Comme ça, vous avez toute mon actu dessus. Quand je live sur Overwatch, machin, vous savez tout.
Très bien. Cédric Deluca, merci beaucoup à toi. Pour ma part, c'est notepatrick.com pour tout ce que je fais, c'est-à-dire ma présence sur les réseaux sociaux et la newsletter dont je parlais tout à l'heure. Il y a un article de Taylor Lawrence qui relate tout ce qui s'est passé sur r/place, sur le Washington Post, que je mettrai dans la newsletter, mais vous pouvez le trouver facilement. C'est dans le Washington Post, donc. Et si vous voulez vous abonner à la newsletter, c'est bien sûr sur notepatrick.com. Il y a un petit endroit pour s'y abonner. Vous aurez droit à tout ça vendredi, si tout va bien. Et bien sûr, si vous voulez soutenir l'émission, patreon.com/rdvtech pour soutenir les gens que vous appréciez, patreon.com/rdvtech pour le rendez-vous tech, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est pour une somme modique que vous pouvez rentrer dans la formidable famille fraternelle des patriotes. On vous remercie de nous soutenir, tous ceux qui le font déjà et tous ceux qui le feront d'ici à la semaine prochaine, qu'on remerciera très chaleureusement dans l'émission. Et on vous remercie également de nous écouter. On vous fait de grosses, grosses bises et on vous dit à très bientôt. Ciao à tous.
Ciao, ciao.
J'ai oublié de faire ça. Ciao, ciao. Et oui, quand on n'est pas en live, j'oublie les bons réflexes, hein, Cédric, c'est pour ça.
Eh oui, oui.